Le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance, des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous. Jérôme Debardis.
Comme chaque mardi matin, nous retrouvons Jérôme Debardis qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Et il est l'heure de rentrer dans le cœur du sujet, du problème ou peut-être des questions ce matin. On va parler de l'assurance habitation. Alors petit rappel, est-ce qu'une assurance habitation, est-ce que c'est obligatoire ou pas?
Alors, c'est obligatoire pour un certain nombre de cas et c'est facultatif pour d'autres. Ainsi que je vous l'ai indiqué, me semble-t-il, il y a deux semaines, certaines assurances sont obligatoires et ce sont quasi systématiquement des assurances de responsabilité, c'est-à-dire les dommages qu'on va causer aux autres, que l'on peut causer aux autres. Donc dans un contrat d'habitation, vous avez une garantie sur le bâtiment. D'abord, ça s'appelle multirisque habitation la plupart du temps, puisqu'il y a un certain nombre de garanties qui sont en package, pour utiliser un terme classique. Alors, donc on assure au départ un bâtiment, et dans ce bâtiment, on assure des biens. Et en plus, on assure la responsabilité civile du souscripteur. Voilà, en gros, la description d'une assurance habitation.
La responsabilité, c'est par exemple si on habite dans une maison à étage, si ça s'effondre et que ça blesse quelqu'un.
Alors oui, ça c'est la responsabilité civile du propriétaire d'immeuble, mais vous avez aussi la responsabilité civile dite familiale et privée, c'est-à-dire votre responsabilité, vous êtes dans la rue et vous renversez quelqu'un alors que vous êtes à pied hein, ou en vélo, votre responsabilité est engagée, c'est votre responsabilité civile et familiale, c'est votre contrat d'habitation qui va jouer au titre de la responsabilité civile.
Alors quelles sont les conditions pour pouvoir avoir cette cette assurance habitation?
Bah, les conditions sont toujours les mêmes que celles qu'on a vues lorsqu'on a parlé du contrat, c'est-à-dire il faut être en mesure de répondre à un questionnaire, payer une cotisation, et voilà, c'est tout.
Mais d'habiter en France, à l'occurrence.
D'habiter en France, oui, encore que, non, pas forcément. Si vous assurez une résidence secondaire en France et que vous habitez en Espagne, rien ne vous empêche d'assurer votre résidence secondaire en France.
Est-ce qu'il est possible d'avoir deux assurances habitation?
Oui, deux cas de figure. Le premier, c'est deux assurances habitation pour le même risque, parce que on a oublié, parce que voilà, c'est la loi ne l'interdit pas. Elle dit que c'est valable sous réserve qu'on n'ait pas fait ça dans un but frauduleux. Voilà, d'assurer deux fois la même chose dans un but frauduleux. Ensuite, on peut avoir deux assurances habitation parce qu'on a deux biens séparés, parce qu'on a une résidence secondaire par exemple, et on a à ce moment-là deux contrats d'habitation.
On va en parler justement des résidences secondaires. Tiens, l'assurance habitation marche-t-elle uniquement si je suis dans mon logement? Par exemple, on a pensé au confinement. Si par exemple on part la durée de deux mois du premier confinement, si on part ailleurs, est-ce que le logement continue à être assuré même si on n'est pas là?
Alors bien sûr, la notion d'habitation est importante, de période d'habitation est importante dans le cadre de l'étude d'un contrat d'habitation. En règle générale, les contrats d'habitation prévoient une inhabitation de quelques mois, deux mois, trois mois par exemple. Mais ça caractérise uniquement la garantie vol, hein, parce qu'on considère que quand quelqu'un est absent de chez lui, c'est plus risqué que lorsqu'il est présent. Bon. Donc on accorde ou on donne dans un contrat d'habitation, classiquement, il y a des exceptions bien sûr, mais classiquement, on dit, vous êtes occupant 9 mois dans l'année, 10 mois dans l'année, et ça c'est la déclaration de base. Maintenant, si vous devez quitter votre logement pendant 6 mois par exemple, là il faut se rapprocher de votre assureur pour essayer de renégocier ça, parce que c'est effectivement une clause.
Donc si on a un confinement qui peut, c'est possible, revenir, oui. Il faudrait, si vous partez longtemps, en informer l'assureur.
Oui, mais d'ailleurs les assureurs ont adapté un peu leurs garanties dès qu'ils ont vu l'ampleur du problème du confinement. Ils ont adapté leurs garanties. Je vous donne un exemple, tout simplement le télétravail. Le télétravail vous oblige à avoir chez vous du matériel qui ne vous appartient pas forcément, qui peut appartenir à votre entreprise. Et ce matériel, il faut le couvrir. Et vous avez des risques différents parce que vous êtes chez vous alors que vous n'êtes pas au travail. Et bien tout ça, les entreprises d'assurance ont automatiquement inclus dans leur contrat des garanties spécifiques au télétravail.
On va parler justement des biens qui sont présents. Est-ce qu'ils sont aussi assurés sur cette assurance habitation? Par exemple, un ordinateur familial.
Oui. Oui.
Est-ce que cet ordinateur est assuré ou est-ce qu'il faut souscrire une assurance de biens pour...
Non. C'est effectivement, dans un contrat multirisque habitation, on garantit le bâtiment, on garantit la responsabilité et on garantit le contenu en règle générale, on garantit exclusivement le contenu privé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des problèmes de confinement. Mais donc, on garantit le contenu, objets précieux, objets classiques. Alors, très souvent, les assureurs vous demandent de faire une répartition entre ce qu'ils vont appeler objets précieux ou objets de valeur et objets classiques. Et on adapte les capitaux et la cotisation correspondante.
Mon vélo est dans ma cave, dans mon garage ou sur ma place de parking et même peut-être dans mon jardin. Ouais. Est-ce que l'assurance habitation marche dans ces parties-là de la maison ?
Alors en matière de responsabilité avec, avec le vélo, si vous causez des dommages avec le vélo, oui. Alors si vous causez, s'il s'agit de la disparition du vélo par exemple,
vol.
Je pense que c'est le but de votre question, c'est beaucoup moins évident. Certaines compagnies garantissent effectivement le vol du vélo dans les parties communes d'un immeuble. Vous avez aussi des compagnies qui garantissent le vélo par lui-même. On souscrit un contrat d'assurance vélo comme on souscrit un contrat d'assurance mobylette ou voiture.
Très bien. Parce qu'il faut, on l'indiquera dans une prochaine chronique sûrement, il faut ouais. aussi assurer son véhicule et indiquer s'il est sur une place de parking, s'il est dehors, à l'intérieur, ouais. à l'extérieur. On verra ça dans une prochaine chronique.
Oui.
On en parlait justement des résidences secondaires. Est-ce qu'il faut obligatoirement souscrire une assurance différente à son assurance de son habitation principale? Est-ce qu'on ne peut pas joindre les deux sur un seul et unique contrat?
Ça, c'est un problème contractuel pur. Il y a des compagnies qui le refusent. Certaines, certainement, l'acceptent. Je ne vois pas de difficultés techniques, si ce n'est quand même d'avoir deux déclarations, parce que les deux risques sont différents sur la période d'inhabitation, sur le nombre de pièces. On demande aux gens des questions extrêmement simples pour décrire leurs biens. Il y a très longtemps, on demandait quelle était la valeur des biens. Personne ne le savait vraiment. Qui pouvait dire en valeur de reconstruction, même pas en valeur vénale. En valeur vénale, oui. On a une idée de la valeur de sa maison, mais en reconstruction, voilà. Bon, donc c'est une période qui est révolue depuis bien longtemps, et heureusement. Aujourd'hui, pour un contrat d'habitation, on demande une déclaration extrêmement simple. Le nombre de pièces d'habitation, par exemple. J'ai 4 pièces d'habitation et j'habite dans le 31 000. Voilà. Avec ces deux critères-là, et bien entendu avec un montant de contenu déclaré, avec ces deux critères-là, on arrive à avoir un contrat qui tient la route.
Ça se fait beaucoup. Maintenant, on peut parler écologie aussi, écologie et assurance. Oui. Je change mon chauffage. Je veux plus de ma cheminée. Je vais installer un poêle à granulés, ce qui se fait de plus en plus. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des avantages ou est-ce qu'il faut en informer son assureur du fait peut-être des risques que ça peut engendrer?
Le chauffage, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, on se rend compte au fur et à mesure du temps que l'origine des sinistres ou d'un incendie, par exemple, en habitation, c'est assez souvent le chauffage. Alors, les assureurs, au lieu de dire on fait moins cher si vous avez un assureur, si vous avez un chauffage plus sécurisé, demandent de déclarer les circonstances et disent par exemple, est-ce que vous avez un foyer fermé? Est-ce que vous avez des poêles à bois?
Est-ce que le nombre de fenêtres peut intervenir
Non, le nombre de fenêtres, non. Mais le type de chauffage, oui, peut intervenir sur la tarification d'un contrat d'habitation.
J'installe des panneaux solaires chez moi, sur le toit.
Ouais.
Est-ce qu'il faut en informer l'assureur? Ou, par exemple, si on fait aussi, c'est possible, une extension de maison ou une dépendance, tout ce qu'on peut rajouter à l'habitation, est-ce qu'il faut automatiquement en informer l'assureur ou est-ce que c'est pas la peine au final?
Alors, on revient un peu à une question qu'on a traitée il y a deux ou trois émissions, dans laquelle je vous disais qu'il est nécessaire, en cours de contrat, d'informer l'assureur des modifications du risque, entre guillemets. Bon. Bien sûr, lorsqu'on va construire une extension, il est nécessaire de dire à l'assureur, j'ai plus 3 pièces, j'en ai 4, j'en ai 5, j'ai une véranda qui n'était pas déclarée au départ, donc ça c'est important.
Ça marche aussi pour les piscines?
Ça marche aussi pour les piscines, et les piscines, c'est une double étude, parce qu'il y a un problème de responsabilité, un problème de dommage. Voilà, la piscine, c'est un problème de responsabilité aussi important. Vous savez qu'il y a des accidents dramatiques tous les ans.
Est-ce qu'on conseille à tous les auditeurs, de quand il y a une modification de l'habitat, d'en informer automatiquement l'assureur?
Oui, bien sûr. Et on revient aussi à une notion, c'est la notion de conseiller, et donc de personne physique quand même. Moi, je ne vois pas comment on peut s'en passer vraiment.
Un sujet vaste, l'assurance habitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail sur le site internet de Radio Présence. Merci beaucoup, Jérôme de Bardis. On vous retrouve la semaine prochaine.
À bientôt, Jonathan. À la semaine prochaine.
C'était le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance. Des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous.